VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonsoir à tous, bienvenue. On commence par le Burundi. Prestation de serment à Bujumbura de deux nouveaux membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Elles sont donc deux femmes qui remplacent les membres qui avaient démissionné pour protester contre les pressions du pouvoir. Cela à moins de deux semaines des élections législatives et communales. Retrouvons à Bujumbura notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Le gouvernement a voulu marquer un coup pour installer les deux nouveaux membres de la CENI, les parlementaires proches du pouvoir, les membres du gouvernement et les représentants des forces armées étaient tous présents. Et c'est le président Pierre Nkurunziza lui-même qui a présidé la cérémonie. La prestation de serment de ces deux nouveaux membres de la CENI a été saluée par le président de l'institution, Pierre Claver Ndayikariye.
Voilà, le Burundi est là. Nous avons deux nouvelles commissaires de la CENI. Ce sont des citoyennes burundaises. Et elles ont, je crois, compris qu'il faut d'abord servir. Servir la nation, servir le peuple, servir au processus électoral et non pas céder aux pesanteurs externes à la commission électorale.
Sans surprise, l'opposition était absente au Parlement lors de cette cérémonie. Elle qui demande depuis plusieurs semaines une CENI et des dates consensuelles pour la tenue des élections.
Nous n'avons pas participé à cette cérémonie que nous considérons comme une parodie.
Charles Nditigé, le président de l'UPRONA.
C'est une comédie politique parce que la mise en place des deux membres, nouveaux membres de la CENI, a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Les deux dames, après investigation, sont proches du CNDD-FDD. On n'a pas contacté les partis de l'opposition, alors que normalement, la mise en place doit se faire de manière consensuelle. Donc aujourd'hui, c'est une CENI qui est composée exclusivement des membres du CNDD-FDD. Donc c'est une CENI tout à fait acquise à la cause du candidat Nkurunziza.
Récemment, le président burundais Pierre Nkurunziza avait affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Ce mardi, le président de la CENI a martelé que son institution est prête pour la tenue des scrutins à venir. Pierre Claver Ndayikariye.
En réalité, pour les élections des députés, pour les élections des conseils communaux, nous sommes prêts depuis plusieurs semaines.
Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, estime qu'environ 100 000 Burundais sont réfugiés dans les pays voisins en raison de la crise et l'opposition rejette tout processus électoral qui ne tienne pas compte de ces réfugiés. Bujumbura, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
Au Tchad, 3 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui en hommage aux 33 morts du double attentat suicide de lundi à N'Djamena. Selon le tout dernier bilan officiel, le président Idriss Déby Itno a promis que les auteurs des attaques répondront de leurs actes. Eddy Sango.
Visiblement ému, le chef de l'État tchadien a fait cette déclaration hier à sa descente d'avion. Il revenait du sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Sans citer nommément Boko Haram, groupe djihadiste auquel est attribué le double attentat, M. Déby a parlé de la main invisible et ses commanditaires qui ont durement frappé le pays. Je ne suis pas trop surpris puisque depuis notre engagement le 17 janvier 2015 aux côtés des pays qui sont menacés par les terroristes, j'ai continuellement dit au gouvernement de ne pas baisser la garde, a affirmé le président tchadien. Des attaques répétées de Boko Haram ont déjà frappé plusieurs fois le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Celle de lundi n'est toujours pas revendiquée. Elle est, selon les autorités tchadiennes qui l'attribuent à Boko Haram, la première du genre dans la capitale tchadienne. La sécurité est renforcée à travers N'Djamena. Plusieurs suspects ont déjà été interpellés par les forces de l'ordre, mais les commanditaires et les complices sont toujours recherchés, selon le procureur de la République, Algassim Kamis.
Les enquêteurs tchadiens sont donc à pied d'œuvre pour faire la lumière sur le double attentat suicide de lundi. Pour en savoir davantage sur l'enquête, Timothée Donangmaï a contacté à N'Djamena le procureur Algassim Kamis.
C'est vrai, nous ne sommes pas habitués à des attaques terroristes. C'est la première fois que nous sommes victimes de tels actes. La police judiciaire est mobilisée. Donc, nous sommes en train d'abord de vouloir analyser la nature des engins. L'équipe de Haut Commissariat pour le déminage était sur le terrain. Nous avons fait des prélèvements des engins explosifs sur le terrain. Donc, Ils vont nous dire exactement la composition matérielle de ces engins explosifs. Des analyses de ADN sur les premières victimes, notamment les docteurs même.
On parle de quelques suspects déjà aux arrêts, qu'en est-il?
Pour le moment, il y a quelques suspects. Pour ne pas perdre la scène de crime, quelques personnes qui étaient sur place au moment des faits ont été interpellées. Bon, maintenant, l'enquête va déterminer leur connexion avec ce qui s'est passé, quel est le degré de leur participation, est-ce qu'ils sont réellement impliqués, et là, c'est à l'enquête de déterminer.
Les deux attaques n'ont pas été revendiquées, mais au niveau du Tchad, on pointe du doigt Boko Haram.
Ceux qui se sont fait exploser, leur corps est complètement déchiqueté, mais leur tête a été intacte et retrouvée. Donc, les cicatrices sur le visage montrent bien que des ressortissants qui doivent vraiment appartenir à cette personne.
Pour ce qui est de l'enquête, est-ce que ce sera un effort exclusivement tchadien ou bien vous allez requérir une aide internationale?
Le terrorisme a montré qu'il n'a pas de frontières. L'enquête en matière de terrorisme a été toujours vraiment une enquête nationale et quelque part internationale. Pour le moment, les équipes qui sont sur le terrain se composent uniquement des officiers et des enquêteurs tchadiens. Mais nous ne crions pas si le besoin de l'enquête s'est senti. Nous ne crions pas.
C'était le procureur de la République du Tchad, Al-Hassim Kamis. Mali, crise de l'eau à Gao, dans le nord du pays. La production locale du précieux liquide n'arrive pas à satisfaire les besoins en eau potable de la population, d'où le véritable calvaire des habitants à l'approche du mois saint du Ramadan. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, nous en dit plus.
Depuis plusieurs mois, certains quartiers de la périphérie de Gao ont cessé de voir leur robinet couler. Voici le témoignage de Madame Meiga.
Pour avoir de l'eau, on va jusqu'au 7 pour aller chercher de l'eau. De 0h jusqu'à 5h ou 6h30 du matin, on n'arrive même pas à trouver un seau d'eau. Pour avoir aussi la charrette, il faut payer. Quand tu payes aussi, tu vas payer très dur. Parfois, tu demandes de t'amener 6 bidons, par exemple, on va te dire que tu vas payer au moins 3000 francs ou bien 2500. Quand tu n'en es pas, comment tu vas trouver ce taux-là? Si ça continue comme ça, que le mois de carême nous trouve sur ça, vraiment, on va souffrir. Sans l'eau, on ne peut pas préparer, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire le lavage. On en est marre.
Pour comprendre les difficultés dans la production de l'eau potable, nous avons rencontré un responsable de la SOMAGEP, comprenez par là la Société malienne de gestion de l'eau potable à Gao, qui a bien voulu garder l'anonymat. Il nous fait comprendre que l'usine de production est incapable de satisfaire ses 5000 abonnés. Le besoin de la population de Gao en eau potable s'élève à 11 000 mètres cubes par jour, alors que l'usine ne produit que 7 500 mètres cubes par jour. Aux 5000 abonnés de la société, ça ajoute 794 branchements clandestins. Ainsi, les quartiers d'Aljana Bandia, Soussoukouira Extension Gadei sont privés d'eau et à Soussoukouira Centre, au château, il faut veiller jusqu'à 2h du matin pour pouvoir être servi en eau potable. Voilà donc comment se présente le quotidien des populations de Gao en cette période de forte chaleur et à l'approche du mois béni de Ramadan. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Et le problème des abus sexuels attribués au casque bleu de l'ONU, un nouveau rapport d'espèce suggère des moyens de prévenir ce fléau. Michel Joseph.
VOA Afrique, en direct de Washington. Commandé l'an dernier, avant la série d'accusations d'exploitation ou d'abus sexuels impliquant des casques bleus en Haïti, au Liberia et en RCA, le rapport vise à réviser pour la première fois depuis 15 ans l'ensemble des opérations de maintien de la paix pour les adapter à la nouvelle donne où les casques bleus sont de plus en plus souvent appelés à gérer des conflits et directement menacés. Un résumé consulté par l'AFP recommande l'exclusion des missions de maintien de la paix des pays qui bafouent les droits des enfants dans les conflits. Le nouveau rapport recommande, par ailleurs, d'accélérer les enquêtes qui ne devront pas dépasser 2 trimestres au lieu de 16 mois actuellement.
La guerre contre le groupe État islamique, la stratégie du président Barack Obama pour vaincre les djihadistes de l'État islamique devrait être l'un des principaux sujets des discussions aujourd'hui au Congrès américain à Washington, alors que le secrétaire à la défense Ashton Carter et le général Martin Dempsey, le chef d'état-major interim, témoignent devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants sur la situation au Moyen-Orient. Actualité aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, personnage haut en couleur, a annoncé hier qu'il était candidat à la présidentielle américaine de 2016. Il dit vouloir restaurer la grandeur des États-Unis, mais les experts accordent très peu de chances de succès aux magnats de l'immobilier qui se considèrent comme républicains. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon, rendez-vous dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.